Notre deuxième partie de cette huitième de Radio Barque, Michel, prévoit que tu nous traites des rencontres archéologiques, alias Arkham, qui viennent de se dérouler pendant une semaine à peu près à Narbonne.
À Narbonne, et qui rencontrent, qui ont eu un grand succès, puisque ben, les salles étaient pleines, il y avait beaucoup de monde.
Qui en sont à leur quatrième ou cinquième édition, je crois.
Exactement,
quand même.
Qui sont organisés, on va donner son nom, par Marc Azema, qui est un chef d'entreprise.
Archéologue, oui,
archéologue lui-même. Enfin, qui a pas mal de travailler sur des... Ben, il fait des BD, il fait des films pour Arte, fait pour tout un tas de vecteurs médiatiques comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans ce monde très spécialisé de l'archéologie et de sa, et son expression à travers images, qu'elle soit cinématographique ou à travers des BD, est connue et respectée.
Oui, c'est quelqu'un, comme on dit familièrement, qui touche sa bille et qui a une reconnaissance.
Ah oui, non, mais il pourrait être à Montpellier ou à Nîmes sans aucun problème. Demain, il déménage, il a un confort de vie, en tant que chef d'entreprise, beaucoup plus important qu'un Narbonne. Mais comme une Narbonnaise, il s'est installé à Narbonne.
Il a la fibre narbonnaise, apparemment.
Donc il a pris l'initiative d'organiser ces rencontres archéologiques depuis quelques temps déjà. Et grand succès, il fait venir des pointures internationales comme Guilhem, comme Golvin, comme Deboul, qui sont des gens très connus dans ce milieu-là. Son ambition est de faire, en gros quoi, l'équivalent du Festival de la BD d'Angoulême,
Situer Narbonne sur la carte de l'archéologie, non seulement française, mais internationale.
Voilà, et faire l'équivalent, pareil, du Festival d'Histoire, à Blois, et il part d'un constat tout bête, quoi, c'est que Narbonne a un capital archéologique, si je puis dire, patrimonial, même s'il n'est que pour aujourd'hui qu'essentiellement virtuel,
avec un musée qui, lui, ne sera pas virtuel.
Mais c'est ce que j'allais dire, effectivement, mais qui, dans quelques temps, notamment à travers le musée de Narbovia, devrait prendre une ampleur considérable. Et qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que ces rencontres-là ne sont pas, accompagnées et soutenues par la puissance publique de manière générale, les collectivités locales et l'État, au niveau où elles doivent être. Voilà quand même.
Enfin, il y a eu un progrès, me semble-t-il, D'ailleurs, M. Bascou peut-être exprimera son désaccord là-dessus.
Je ne peux pas dire que les collectivités ne soutiennent pas, puisque
le
Grand Narbonne donc, est le premier contributeur, soutient ce festival depuis le début, a essayé justement d'ouvrir...
Je ne dis pas que les collectivités publiques ne soutiennent pas, je ne dis pas ça.
Je dis
qu'elles souffrent insuffisamment pour arriver effectivement au niveau où lui, effectivement, et quelques autres souhaiteraient qu'il soit, effectivement, à faire un festival reconnu d'une densité telle. Et quand je fais une comparaison avec d'autres festivals, dans le département, quand même, le festival du film politique, je vais en dire deux mots.
Lui qui est à sa première.
Qui est à sa première à Carcassonne. Comment ce festival de film politique est né à Carcassonne? Un jour, Mme Delga déboule à Carcassonne et elle dit « Je mets 100 000 euros sur le festival du film politique
». Oui,
comme ça.
Grosso modo, c'est ça.
Sans aucun contenu ni rien. Je peux en témoigner. Et qui on retrouve, comme par hasard, comme directeur du Festival du film politique, M. Jean-Claude Jules.
Un ancien jeune socialiste.
Président du mouvement de jeunes socialistes narbonnais,
oui.
Qui a fait la campagne de Mme Farm et qui, après son échec, finalement, se retrouve sur le marché du travail. Je veux dire qu'on en est là. 100 000 euros pour un contenu qui n'avait même pas été défini ni pensé, comme ça, apporté par Mme Delga. Subvention de la région pour le Festival du film archéologique, combien? 4 000 Même pas. 7 000 euros.
Oui, alors par rapport à
7 000 euros pour un budget de 80 000 euros.
Voilà, ça veut dire que... Et pour festival qui, lui, est réel...
Pour un festival
a déjà des fondations.
Qui a déjà des fondations et qui accompagne, effectivement, une politique de valorisation du patrimoine archéologique de la ville de Narbonne qui se traduira par, effectivement, la réalisation du musée. Je dis simplement que de la part des collectivités publiques, quand on est confronté à cela, on se doit, effectivement, quand même, surtout quand on est présidente d'une région, de hiérarchiser un peu, me semble-t-il, les soutiens, surtout quand, en plus, la région est elle-même la propriétaire du musée en question, censée, effectivement, être le vecteur principal de la promotion, muséale et archéologique de la ville de Narbonne.
Oui, d'un côté, on a quand même quelque chose qui est réel et qui fonctionne. De l'autre côté, on a un projet qui peut-être fonctionnera un jour, mais ça, c'est approuvé.
Voilà. Monsieur Jean-Claude.
Voilà. Eh bien, deuxième partie de ce Radio Barque numéro 2, les congrès des maires. Alors là encore, ça, comme on dit chez nous, ça a roumégué pas mal.
Mais oui, parce que les maires sont comme tous les Français, quoi. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc ils respectent après l'État. Non, d'ailleurs, sans raison. Parce que si effectivement la dotation globale de fonctionnement a été globalement maintenue pour l'ensemble des communes, il se trouve que 18 000 d'entre elles, bon, je vais très très vite, quoi, hein, voient leur contribution diminuer. Et pour une raison simple, en fait, avancée par l'État, qui se traduit par une maxime très, très simple, elle aussi, les communes les plus riches doivent transférer un peu de leur richesse aux communes les plus pauvres. Il y a aussi, ça ce n'est pas dit par le gouvernement, mais ça doit être pris en compte, il y a eu l'effet aussi d'intégration de ces communes, notamment des petites à des intercommunalités, qui mécaniquement ont vu leur potentiel fiscal augmenter, alors qu'effectivement, bon, ils n'ont pas été enrichis pour autant. Donc toute une série de mécanismes qui font qu'aujourd'hui, certaines communes, bon, sont mécontentes et le manifestent à travers ce genre de revendications financières. Cela dit, le malaise est beaucoup plus profond que ça. Parce
oui, il y a du blues chez les maires.
Il y a du blues, mais ils font valoir effectivement des réalités concrètes, empiriques, qui sont tout à fait évidentes. Hein. Quand on est maire d'une petite commune, en fait, dans le Lyon-Corbière, et qu'en même temps, en fait, on est, par exemple, le président de la commission de tourisme de la région, comme M. Sébastien Plat, et en même temps, en fait, conseiller communautaire de la communauté de communes en question, c'est-à-dire, il passe plus de temps, en fait, je veux dire, du temps physique, en fait, et du temps intellectuel, etc., dans ces différentes réunions de ces différentes institutions qui n'en passaient quand il était seulement maire de sa commune.
Oui, il y a une sorte d'écartèlement.
Un écartèlement effectivement considérable qui font qu'effectivement c'est un travail physique fait, hein, qui a pris fait une dimension aujourd'hui qu'il n'avait pas forcément dans le temps. Ajoutons à ça qu'un maire d'une petite commune, lui, hein, il est confronté tous les jours, hein, sur chaque trottoir et dans chaque rue à ses contribuables qui, comme tous les contribuables de France et de Navarre, ne sont jamais satisfaits, bon, de leur,
oui,
de,
puis,
de leurs
par nature. Et puis, continuent à confondre les compétences des uns et des
Exactement,
autres.
Exactement. Dans un contexte où les compétences sont particulièrement floues. Et ce que d'ailleurs certains maires aussi regrettent. Ils disent, ben, on n'a plus de compétences maintenant. Donc, c'est intercommunalités. Donc, on peut se déplacer. Et tout ça crée effectivement un malaise, chez les élus, fait, notamment des petites communes, qui est bien réel. Qui est bien réel. Et dans un contexte général où c'est vrai que les contribuables d'une manière générale ont pris l'habitude maintenant systématiquement de faire porter la responsabilité de tous leurs malheurs et de tous leurs maux aux élus. Mmh. Comme si, bon, dans une république comme la nôtre, on pouvait se passer de ce genre de personnes qui donnent de leur temps en fait, et de leur intelligence à une fonction qui n'est pas forcément très gratifiante, en tout cas qu'il l'est moins qu'elle n'était dans le passé, qui est aussi un élément en fait de
comparaison. Et pourtant, il y a quelques maires.
Et pourtant, et alors je voulais conclure là-dessus, il y a pourtant quelques maires chez nous,
aux portes de Narbonne.
Chez nous, je tombais sur une interview fait de maire de la Narbonnaise, quoi.
Notre confrère de la presse écrite,
Guillaume Eras, je vais le citer, Guillaume Eras et maire Saint-Marcel.
Didier Aldebert.
Qui disait en gros, bon, voilà, si on est maire, c'est parce qu'on l'a voulu, qu'on va pas quand même cracher dans la soupe. Enfin, ils ne me disent pas comme ça, mais c'est moi qui le dis.
Quoi, ça, hein, bon, bah, gros,
c'est un métier quand même qui nous va, quoi, qui nous fait plaisir, fait qui en tout cas nous donne une satisfaction à la fois intellectuelle, morale, fait, et que l'on voudra.
À remarquer quand même que l'un et l'autre jouent un rôle important dans le Grand Narbonne.
Bien entendu, et qui ce sont peut-être deux maires qui, de mon point de vue, quoi, hein, sont tout à fait caractéristiques de ces maires-là qui ont bien intégré à la fois l'articulation en fait, hein, entre leur fonction élective de maire et leur fonction élective de conseiller communautaire. Donc ce sont des maires jeunes, hein, nouveaux dans le paysage, qui ont parfaitement intégré ça et qui, de mon point de vue, vu à distance, me paraissent moins troublés en fait, et moins traumatisés que des maires un peu plus anciens qui étaient sur un autre mode de gestion et qui, c'est vrai, ont vu arriver toutes ces évolutions-là de manière un peu critique et qui ont un peu perdu leur repère. J'ajoute que, pour en revenir à un point que j'ai évoqué en premier niveau de cette intervention, de cette chronique, c'est que, du coup, j'ai fait un peu l'analyse, hein, pour en revenir à la dotation globale de fonctionnement qui aurait diminué en fait, chez les maires. Donc j'ai fait l'analyse sur la Narbonnaise.
Et toi, tu dis ?
Qu'est-ce que je constate ? Que dans la Narbonnaise, Narbonne a vu sa DGF augmenter de 3%. Que le maire de Vinassant, quand on a ce qu'il dit, bon, on n'a pas diminué, enfin, il le dit, mais très légèrement, elle n'a pas diminué, mais elle n'a pas augmenté massivement. Que celle de Saint-Marcel a augmenté de 3%. Oui. Que par contre, la commune de Moronon a vu effectivement sa dotation globale de fonctionnement diminuer, mais on peut comprendre pourquoi, avec le potentiel, bon, amené par la zone, etc. Mais que par contre, les communes dites les plus riches, comme La Nouvelle, Le Cat, etc., bon, elle avait vu la dotation globale diminuer. Donc, globalement, sur le territoire de la Narbonnaise que couvre l'agglo, fait et que préside Jacques Bascou, on peut pas dire objectivement que la dotation globale de fonctionnement est certainement pas celle de la ville centre, celle qui accumule le plus de richesses démographique, en tout cas, et fiscale, est diminuée.
Voilà.
Donc voilà, bon, un lieu commun qui convenait aussi de faire sauter.
Voilà, peut-être remettre aussi quelques pendules à l'heure, ça fait du bien de temps en temps. Et cela nous permet de marquer une deuxième pause, après laquelle nous retrouvons notre invité du jour, Jacques Bascou.